19h-20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Ce soir est un grand soir car j'ai l'immense honneur de recevoir l'un des plus grands écrivains français vivants, Patrick Modiano. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre dans le salon chinois chez La Pérouse.
Merci Frédéric de me recevoir chez La Pérouse.
Vous publiez La danseuse chez Gallimard, qui est un de vos meilleurs livres. Vous êtes au sommet de votre art dans ce livre, qui est un peu un retour au style de vos débuts, notamment avec ses noms propres, interlopes, ses numéros de téléphone qui commencent par opéra, tout un univers que vous avez inventé et qui vous résume, comment avez-vous... Pardon, je finis par parler comme vous en vous regardant.
Non, pas du tout.
Je suis aussi intimidé que vous. Mais vous avez mis du temps à trouver cet univers.
Oh, c'est souvent... oui, c'est souvent lié au nom. C'est comme souvent beaucoup de romanciers, même comme Simenon, qui trouvait ses noms dans des annuaires... Alors, il faisait des listes, non, pour savoir lequel musicalement pouvait le... Alors, c'est un peu ambigu, parce qu'évidemment, c'est des noms qui peuvent appartenir à des gens réels, mais ils passent dans une autre dimension. Ils deviennent des personnages de... Enfin, on ignore si on prend des annuaires, des vieux annuaires en général, parce que maintenant, il n'y en a plus. Mais alors, on voit des noms comme ça, on en choisit quelques... On fait des listes, et puis on choisit... Et on ignore quelles sont vraiment les personnes auxquelles ces noms ont appartenu. Mmh. Mais
ils deviennent des personnages de vos romans.
Oui, on leur vole leur nom un peu. Enfin.
Oui, tout à fait. Alors, à un moment, vous dites que ce livre, ce sont mes débuts dans la vie. Je pense que ça aurait pu être le titre. D'ailleurs, La danseuse aurait pu s'intituler Mes débuts dans la vie.
Oui, c'est des débuts. Enfin, c'est toujours. C'est un roman. Alors évidemment, c'est la personne qui dit je, c'est pas spécialement. Enfin, c'est une sorte d'imaginaire. Enfin, de ce que peut être. Oui, les débuts dans la vie de quelqu'un qui est pas forcément tout à fait moi, bien qu'il y ait un jeu, mais c'est dans l'imaginaire en fait.
Ce qui vous ressemble un petit peu quand même, ce jeune homme de 20 ans qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire dans la vie.
Oui, c'est-à-dire que, bien sûr, il me ressemble d'une manière générale comme quelqu'un qui ne... À partir de 17 ans, ne poursuivant pas d'études, ne sachant... Enfin, cette période floue qu'il y avait à l'époque, entre 17 et... Et 21 ans, qui était l'âge de la majorité à l'époque, c'était une période assez floue pour quelqu'un qui ne poursuivait pas des études précises ou qui. Une période un peu incertaine, évidemment. Mais ça, il y avait beaucoup de gens dans ce cas-là. Enfin.
Et alors, donc ce jeune homme suit ses rencontres de hasard, en réalité. Il rencontre comme ça un type qui est son propriétaire de sa chambre de bonne, dont qu'il loue. Ce monsieur lui présente une danseuse.
Oui.
La danseuse a un fils qui s'appelle Pierre. Et le jeune homme, le héros, devient un peu le babysitter de ce petit garçon.
Oui, c'est-à-dire que à partir du moment où le livre avait un rapport la danseuse avec la danse, oui, il fallait qu'il y ait une sorte de... C'est plutôt une sorte de mouvement... qui ressemble à... Enfin, oui, c'est une sorte de mouvement où, à mesure qu'on écrit, on est entraîné dans l'imaginaire, mais il y a toujours une espèce de mouvement de je dirais presque que c'est comme un argument de ballet. Enfin, oui, il y a une sorte de mouvement. C'est pour ça qu'évidemment, c'est un livre assez court qui peut paraître un peu... avec des chapitres un peu, enfin des chapitres qui sont à peine des chapitres, mais qui, il y a une sorte de côté un peu avec des espaces comme ça,
Des ellipses.
Des ellipses, enfin, c'est sur un espèce de...
C'est un concentré, en fait, un concentré de votre style. C'est-à-dire, il y a ce côté intermède aérien, mais c'est aussi un baleine de nostalgie.
Oui, c'est une sorte de ballet, enfin, discontinu, en fait, comme certaines... des choses qui réapparaissent comme ça dans un mouvement de, qui aurait pu être un argument de ballet. En fait. Et c'est pour ça qu'au fond, la danseuse imprime un mouvement.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, page 50, vous dites « J'avais toujours eu du mal à répondre aux questions ».
Ah oui.
je vous demande pardon parce que je voudrais éviter de transformer notre conversation en interrogatoire.
Ah non, pas du tout.
Mais c'est vrai que c'est assez amusant, c'est assez compliqué d'expliquer ce qu'est votre style. Et c'est peut-être pour ça que vous écrivez, c'est précisément pour ne pas avoir à expliquer.
Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, quand on écrit, en fait, on fait beaucoup de ratures. Et donc après, ça donne une impression de fluidité, mais évidemment, le langage, on peut pas raturer à mesure qu'on parle. Donc, quelquefois, c'est difficile, ça paraît un peu hésitant, tout ça, parce qu'on a, les ratures ne sont plus visibles quand on lit, mais quand on parle,
quand
évidemment.
On parle. Ah oui, d'accord. Donc en fait, votre façon de parler, c'est une manière de raturer oralement.
Oui, mais alors c'est difficile de raturer oralement parce qu'on est obligé quelquefois de bégayer, de revenir. Enfin, il y a pas le côté limpide de la qui supprime le.
Mais c'est très bien. C'est très bien. Vous savez, il y a malheureusement une majorité de gens qui n'ont pas l'élégance de raturer oralement comme vous. Alors, nous avons choisi des musiques pour vous faire plaisir aujourd'hui. Et évidemment, on commence par le ballet chorégraphié par Georges Balanchine, La Somnambule, que vous citez dans La Danseuse, sur une musique de Vittorio Rieti, inspirée des thèmes d'opéra de Bellini.
Ah oui, c'est ça, oui.
Vous avez vu ce ballet quand vous étiez enfant?
Oui, les hasards de la vie. J'ai vu ce ballet et ça m'a fait une impression très forte, évidemment, parce que c'est surtout ce côté somnambulique, évidemment, parce que à l'époque, si vous voulez, les enfants allaient, ils allaient voir des films de Walt Disney ou au cirque, par exemple, il y avait des choses impressionnantes de trapézistes qui sautaient d'un trapèze à l'autre, mais le problème, c'est qu'il y avait toujours, au moment où ils sautaient, il y avait toujours l'orchestre qui faisait une sorte de...
Un roulement de tambour.
Un roulement de tambour. Alors, évidemment, quand j'ai vu ce spectacle, où j'ai vu cette danseuse qui marchait comme une somnambule, ça m'a beaucoup impressionné, en fait.
C'était donc La Somnambule, chorégraphiée par Georges Balanchine. Alors, le ballet avait été créé en 1946 à New York. Je suis toujours avec Patrick Modiano en conversation chez La Pérouse pour son roman, son nouveau roman, La Danseuse, aux éditions Gallimard. Et vous parlez de ce ballet que vous avez vu à la salle Pleyel à Paris. C'est ça, mais ça devait être plus tard, alors.
Oui, en fait, je l'avais vu à... Oh, c'est compliqué, sur la côte... c'est compliqué à expliquer, sur la côte normande, enfin...
Ah oui.
Mais parce qu'il y avait... ça faisait partie des ballets du marquis de Cuevas. Enfin,
ah oui, très bien.
Et alors, c'était dansé par la femme de Balanchine qui s'appelait Maria Talchev, qui était moitié. Elle avait du sang, comment on appelle ça, indien, mais d'Amérique, je sais pas.
Amérindien.
Oui. Oui.
Donc c'est encore ce livre aussi une histoire d'enfant négligé par ses parents.
Oui.
Ce qui est un thème qui vous intéresse énormément depuis toujours.
Oui.
Il y a une scène bouleversante où la danseuse va à la gare d'Austerlitz. Oui. Accueillir son fils Pierre et elle le connaît à peine en réalité.
Oui, oui.
C'est presque une obsession chez vous, ces enfants quasiment abandonnés ou livrés à eux-mêmes.
C'est quelque chose qui revient de l'enfance. Oui. En même temps, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose qui est à la fois douloureux et qui n'est pas vraiment, parce qu'en fait, les enfants ne se rendent pas compte que. Ils s'étonnent de rien, alors évidemment, même si leurs parents sont absents, ils finissent par s'habituer, enfin, ils s'étonnent pas de grand-chose, en fait. Donc, et puis, autour d'eux, il y a toujours des... Ils sont avec des gens qui sont gentils, quelquefois, enfin, qui...
Oui, oui. Pas... C'était un peu le cas de votre enfance, que vous avez raconté dans Un Pédigré, dans Remise de peine...
Oui, c'était un peu... c'est-à-dire que... Au fur et à mesure qu'on écrit, évidemment, on s'identifie avec les personnages du roman, bien que ça soit complètement imaginaire ou un roman, un vrai roman, mais enfin, au fur et à mesure qu'on écrit, évidemment, on s'identifie à la fois à l'enfant, à la fois à la danseuse, à la fois au
narrateur.
Les détails qu'on a observés. Mais en même temps, il y a quelque chose d'imaginaire. Enfin, c'est pas tout à fait la autobiographie. Enfin, je veux dire, c'est des détails qu'on mélange comme ça et au fur et à mesure, on est chacun des personnages au fur et à mesure qu'on écrit le livre.
Oh, j'ai bien compris que vous ne vouliez pas me dire que c'était autobiographique, mais je vous crois. Je pense que vous transformez simplement des impressions et des souvenirs fugaces, vous les transformez en roman. Alors, il y a quand même une description de Paris qui est assez amusante, parce que vous considérez que Paris est méconnaissable par rapport à celui d'il y a 60 ans, qui est celui du début des années 60, où se passe le livre.
Oui.
Et il y a donc ce choc temporel entre aujourd'hui et le Paris des années 60. On le voit par exemple, page 13... Et là, vous avez comme devoir de nous lire la page 13. Patrick Modiano, merci beaucoup.
Ainsi, depuis quelques jours, me revenaient par bribes les images d'une période très lointaine de ma vie. Jusque-là, elles étaient recouvertes par une couche de glace. Et j'avais quand même, par instant, le vague pressentiment que cela ne durerait pas. Il était fatal qu'un jour ou l'autre, la glace fonde et que ces images réapparaissent comme remontent les noyés à la surface de la Seine. Et pourquoi cela se faisait-il aujourd'hui dans une ville qui avait à ce point changé qu'elle ne m'évoquait plus aucun souvenir? Une ville étrangère. Elle ressemblait à un grand parc d'attractions ou à l'espace duty-free shop d'un aéroport. Beaucoup de monde dans les rues comme je n'en avais jamais vu auparavant. Les passants marchaient par groupes d'une dizaine de personnes, traînant des valises à roulettes et la plupart portant des sacs à dos. D'où venaient ces centaines de milliers de touristes dont on se demandait s'ils n'étaient pas les seuls, désormais, à peupler les rues de Paris.
C'est assez nouveau chez vous de déplorer la transformation de Paris en duty-free shop, comme vous dites.
Oui.
Il y a un autre moment où vous dites « Le monde avait changé si vite autour de moi que je m'y sentais un étranger ». Aussi, vous dites « Le monde si dur et si incompréhensible où nous vivions depuis quelque temps ». J'ai l'impression que
c'est-à-dire
ce choc
que,
est nouveau chez vous.
C'est toujours. Enfin, souvent, au début d'un roman, je pars d'un présent, mais enfin, je n'indique pas tellement les choses. Ça part toujours d'un présent pour remonter vers un passé lointain ou moins lointain que celui-là. Mais là, il y a des détails un peu de. Par exemple, là, c'est des espèces de sensations que j'ai éprouvé depuis quelque temps.
C'est ce qui vous choque le plus, ce sont les valises à roulettes ou les sacs à dos?
Ce qui m'avait frappé, et peut-être, c'est que je remarquais que dans les rues, les gens marchaient par groupe. Alors là, il s'agit de touristes, mais j'ai remarqué quand même qu'il y avait que les gens marchaient par groupe, quelquefois de 10 ou 15 personnes, ce qui n'était pas le cas dans les périodes précédentes ou même dans un passé très proche. Et on s'en rendait compte parce que quelquefois, on pouvait difficilement marcher sur le trottoir parce qu'il y avait des groupes compacts.
Oui.
Mais alors, le problème, c'est que j'ai essayé de comprendre pourquoi. Alors, peut-être que les gens sont angoissés. C'est une période assez angoissante, où les périodes sont plus angoissantes qu'il y a quelque temps. Et peut-être qu'en fait, inconsciemment, ils marchent...
Ils deviennent grégaires.
Oui, pour se rassurer, ils marchent par groupe. Et puis, c'est compliqué parce que quand je pense... Parce que là, je parle de touristes, mais en fait... Ça pourrait être un roman de science-fiction. On verrait des gens déambuler par... à un moment, je parle d'une armée... Enfin, de gens avec des sacs à... Enfin, des valises à roulettes.
Et des casquettes aussi.
Qui pourraient... qui marchent à travers Paris en traînant des roues. Enfin, ça pourrait faire une science-fiction.
Et oui.
D'autant plus que les... On remarque que dans certains quartiers, les immeubles se vident et deviennent des... Comment dirais-je, des Airbnb, de sorte que il y a des groupes aussi de 15 ou 20 personnes qui donc il y a une impression comme si Paris, le centre de Paris ou certains quartiers de Paris ça fait comme une sorte de parc.
Oui, le parc d'attractions ou d'hôtels, comme un hôtel géant où les gens rentrent et sortent.
Oui, en groupe, avec des... étrange, enfin.
C'est vrai. Mais diriez-vous que vous êtes un écrivain réaliste ou un écrivain surréaliste?
C'est-à-dire les deux à la fois, parce qu'évidemment, c'est des images très précises que quelquefois que je vois ou des rues très, très, ou des phénomènes comme ces groupes qui marchent. Et puis après, ça, évidemment, ça bascule un peu dans le, surréel, oui, ça bifurque dans l'imaginaire ou dans le. Mais à la base, il y a des détails réalistes, évidemment. Plus c'est réaliste, plus ça frappe, mais on les déforme un peu, on les exagère.
Je me demandais même si ce livre-là n'était pas un roman d'avant Instagram, c'est-à-dire un roman où, au fond, vous dites à un moment, c'était un temps où l'on prenait beaucoup moins de photos qu'aujourd'hui. Je parle des années 60.
Oui.
Et finalement, votre littérature consiste à capter ce que les gens, enfin, aujourd'hui, prennent tous en photo toute la journée. Vous voyez ce que je sais pas si j'ai raison.
Oui, c'est-à-dire que, évidemment...
Est-ce que Modiano est compatible avec Instagram, voilà?
C'est-à-dire, ce qui est embêtant dans Instagram, c'est que vous avez tout de suite l'image, et évidemment, un romancier, évidemment, il faut qu'il ait une image très précise, mais après, qu'il la digère un peu, qu'il la déforme ou qu'il mélange certaines, qu'il fasse une sorte de. Évidemment, là, on a tout. Instagram, on a tout de suite la. C'est pour ça que je me pose des questions, parce que des garçons, des enfants presque qui commencent maintenant à utiliser le. Ça va être très bizarre. Je me demande toujours quels seront le genre de romans qui pourront. Enfin, ils pourront peut-être faire quelque chose d'étrange quand même. Je sais pas.
Je ne sais pas si le roman est compatible avec Instagram. C'est bien la question que je vous pose. Et à mon avis, c'est pour ça que vous allez toujours dans le passé.
Oui, c'est ça, parce que on pourrait faire des romans, par exemple, j'imagine des romans policiers avec avec certaines choses qu'on verrait sur Instagram. Enfin, mais le roman, c'est difficile parce qu'on a. On est court-circuité, on voit tout de suite l'image, et donc
Il n'y a plus de rêve. Au fond, l'impression que donne la danseuse, mais que donne toute votre œuvre, c'est que on ne sait jamais si vous décrivez un rêve ou un souvenir.
Oui.
Est-ce qu'il y a une différence entre les deux?
Non, c'est très bizarre parce que en allant sur le chemin, par exemple, je passais devant mon ancienne école. En fait, ce qui est mystérieux, c'est que les endroits qu'on a, mettons à Paris, parce que je parle, les endroits qu'on a, des rues dans lesquelles on a marché enfant ou même un peu plus tard, au bout de 20 ans, on fait des rêves récurrents en les voyant, mais ils ont un aspect un peu étrange. C'est les mêmes parce qu'on revoit le coin de la rue, là, mettons là-bas la rue Dauphine, on prend la rue du Pont de Loti.
Oui, je peux expliquer un petit peu, parce qu'avant qu'on commence l'émission, oui. Vous m'avez dit que vous étiez arrivé chez La Pérouse en passant devant votre ancienne école où vous étiez quand vous étiez enfant.
Oui, c'est juste en face.
Juste à côté.
La cour de une des cours de récréation, c'est juste presque en face de La
Pérouse. Donc quand vous étiez enfant, vous passiez devant ce restaurant.
Oui, alors, parce que je passais parce que j'avais un camarade qui habitait juste à côté. Et alors évidemment, on comprenait pas très bien parce que les enfants à l'époque, on les emmenait pas. Ils allaient rarement, enfin ou presque jamais dans les restaurants. Alors il y avait cette façade et on se demandait toujours qu'est-ce que c'était. On avait envie de sonner pour voir.
Qu'est-ce que c'est que cet endroit bizarre?
Oui, mais tout ça, c'est pour dire que tous les endroits qu'on a là où on a marché dans son enfance, les rues, ou même dans son adolescence, il faut un délai à peu près de 20 ans où vous revoyez d'une manière... vous faites des rêves récurrents de ces endroits, et dans ces rêves, il y a quelque chose d'insolite, parce que c'est difficile à expliquer... quelque chose d'insolite que peut-être j'essaye un côté onirique, mais pourtant c'est très précis, c'est les mêmes endroits, mais avec quelque chose comme un opérateur de cinéma qui aurait filmé une rue sous un certain éclairage. Il y avait des opérateurs comme ça de cinéma qui faisaient qui rendait un côté onirique à la réalité, et on a cette impression de...
Oui, parce que en fait le temps modifie les souvenirs, les transforme en vision, rêve,
oui.
Et aussi vous par le truchement de votre travail d'écrivain de style.
Oui, oui, on les...
Voilà, ces fameuses ratures.
Oui, les ratures.
Alors, deuxième surprise musicale, c'est un ballet de Roland Petit. Le ballet fétiche du danseur Jean Babilet, Le jeune homme et la mort, écrit par Jean Cocteau sur une musique inspirée d'une œuvre de Bach, arrangée par Ottorino Respighi. C'était
oui.
Cette musique du jeune homme et la mort. Là
oui.
Aussi, c'est un ballet. Enfin, vous parlez de...
Oui, de Jean Babilet. Oui.
Oui.
Oui, parce que c'est un danseur qui m'a toujours fasciné. Enfin, c'était un... Il était très... parce que contrairement à ce que je dis là, oui, il faut une discipline dans la danse, tout ça. Mais lui, il était... assez désinvolte. Enfin, il avait une vie un peu chaotique. Enfin, et pourtant, c'était un. Il était forcément discipliné parce qu'il était danseur, mais il avait une vie un peu chaotique et pourtant il était formidable.
Je suis toujours avec Patrick Modiano et nous le retrouvons juste après ces quelques messages.
Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Et nous sommes toujours en compagnie de Patrick Modiano pour Conversation chez La Pérouse sur Radio Classique. Patrick Modiano, vous publiez La Danseuse aux éditions Gallimard. Je disais que c'est un concentré de votre œuvre. Et je voulais savoir, quel est le cliché sur vous qui vous exaspère le plus? Alors, je vous en propose une liste. La petite musique, oui. Un auteur brumeux, toujours le même livre, ou obsédé par l'occupation allemande. Quel est le cliché qui est le plus agaçant à relire sans cesse?
Oui, parce que vous me citez beaucoup de choses qui sont un peu vraies, enfin, brumeux, oui. Enfin, bien qu'il y a toujours quand même quelque chose d'assez précis au départ, mais occupation allemande...
Dans celui-là, pas tellement, non.
Là, non, pas. Mais parce qu'en fait, oui, quand j'étais... des gens qui sont nés comme moi, en 45, ils sont un peu le fruit de cette période un peu étrange, et donc avec des souvenirs d'enfance où c'était encore très très présent, c'est assez banal parce qu'au fond tous les gens qui sont nés à peu près de ma génération, ils sont un peu les produits de cette période où les gens, il y avait des rencontres qui étaient étranges aussi dans ces périodes troublées. Il y a toujours des rencontres qui n'aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas ces périodes chaotiques.
Dont celle de votre père avec votre mère.
Oui, et puis aussi de tas d'enfants qui... Et donc, évidemment... mais ça, c'est une question de comment dirais-je... C'est quelque chose que je partage avec d'autres... Alors, il y a certaines personnes de mon âge qui l'ont exprimé d'une autre manière, mais il y a toujours, oui, des... Mais en fait, c'est vrai que ça m'a. Mais toute façon, ça aussi, je l'ai. C'est devenu quelque chose un peu d'onirique, la manière de parler de cette époque.
Vous avez évolué d'ailleurs sur ce sujet, puisque dans votre premier roman, La Place de l'Étoile, en 1968, vous étiez plutôt sous l'influence de Paul Morand ou de Louis-Ferdinand Céline, avec un goût pour l'insolence. D'ailleurs, vous aviez eu le prix Nimier cette année-là.
Oui, c'est-à-dire que quand on écrit... Enfin, c'est quelque chose que j'ai écrit très jeune. Alors, en fait, c'est difficile d'utiliser un instrument comme ça, comme l'écriture très jeune. Alors, quelquefois, ça donne une impression de... C'est comme si on faisait des gammes, en fait. Alors, on force le... Comment dirais-je, on essaie... Alors, je disais, il y avait beaucoup c'est un peu comme quand on apprend une langue ou quand on fait des exercices comme ça et donc, ça donnait un peu une impression de
provocateur, quoi. Plus provocateur à vos débuts. Mais c'est pas un reproche du tout.
Non, c'est... C'est parce que c'était aussi une manière de... oui, j'avais lu beaucoup je lisais beaucoup je dirais pas de pamphlets, mais des choses avec un style très... et donc, c'était un peu quelqu'un qui s'échauffe comme ça, qui... Mais alors, ça avait des inconvénients, parce que, par exemple, je ne pouvais pas... faire respirer un peu le livre, c'est-à-dire faire, par exemple, aller à la page ou faire un blanc. Enfin, tout était très crispé comme
oui.
ça.
Très serré, oui.
Très serré, parce que c'était aussi très difficile quand on est très jeune. C'est une période où il faut, pour écrire, évidemment, il faut une sorte d'attention perpétuelle, et c'est en contradiction avec un âge trop jeune, sauf certains poètes qui arrivent à avoir du génie comme Rimbaud, parce qu'en fait, le poème est quelque chose de plus bref que le roman où il faut... donc c'était aussi comme quelqu'un qui essaye
Oui, c'est vrai. Et alors, mais assez tôt, sans doute avec Villatriste en 1975, puis votre prix Goncourt en 78, rue des Boutiques Obscures. Là, vous créez vraiment votre style à vous. C'est plus du tout de la provoque, c'est cette espèce de malaise où il y a des personnages interlopes, où il y a ce flou artistique qui vous caractérise. Vous l'avez trouvé peut-être dans les années 70, cet univers-là.
C'est-à-dire qu'on fait toujours des essais quand on est très jeune, c'est absurde. Quand j'avais 16 ou 17 ans, j'avais écrit un roman qui était un peu très inspiré par Le diable au corps de Radiguet et tout ça, et qui était... C'était pas vraiment la provoque. En fait, c'était pas tout ce problème du premier livre avec tout le côté occupation et malheureusement, j'étais dans un, comment dirais-je, j'étais dans un pensionnat où je pouvais pas emmener ce livre et c'était un pensionnat où il fallait demander une permission spéciale
Au Moncel?
Non, c'était un pensionnat en province, en Haute-Savoie. Quelque chose. Il fallait demander la permission pour lire Madame Bovary. Et alors, je pouvais pas l'emmener et je le mettais dans un placard chez des correspondants que j'avais. Mais malheureusement, un jour, je suis revenu et dans ce placard, il y avait plein de paperasses de paperasses diverses et ils ont tout vidé et donc le roman
s'est perdu. Votre premier manuscrit.
Oui, alors c'est peut-être que si je l'avais pas perdu, j'aurais peut-être retravaillé plus tard et le premier livre aurait été totalement différent parce que c'était un roman. Alors j'ai retrouvé des bribes de ce roman sans m'en rendre compte dans certains livres que j'ai écrit, qui se passait à Londres, en fait, parce que ça se passait en Angleterre. Et donc, inconsciemment, il y avait des bribes de ce roman inconscient qui me revenaient. Mais je ne m'en suis pas aperçu. Je m'en suis aperçu beaucoup plus tard que c'était des bribes qui revenaient comme ça.
Et alors, il y a eu quand même un événement assez important en 1997, avec la publication de Dora Bruder, c'est que vous passez à la non-fiction. Mais total, c'est-à-dire que c'est une enquête sur une fillette déportée.
Oui.
Et ensuite, encore plus personnel, avec Un pédigré en 2005, là, c'est une véritable autobiographie où vous vous exposez complètement. Est-ce que donc ces deux dates, 97 et 2005, ont été un tournant ? Parce que ensuite, vous êtes revenu à la fiction.
Oui, mais en fait, j'ai toujours eu la tentation d'écrire un livre qui serait pas de la fiction, une sorte de soit l'histoire d'un fait divers d'être directement penché sur le réel, quelque chose qui serait pas de la fiction. Et chaque fois, évidemment, je revenais au roman, mais je regrette. Mais sans arrêt, j'avais la tentation d'écrire quelque chose qui soit très qui soit pas du tout de la fiction, une manière même peut-être subjective de parler de quelque chose de vraiment réel, mais je revenais toujours à une sorte de fiction.
Et finalement, vous l'avez fait ces deux fois-là, Dora Bruder et Un pédigré.
Oui.
C'était presque télégraphique, c'était très différent de ce que vous faisiez avant et après.
Oui, alors pour Un pédigré, c'était différent parce que j'ai parlé d'une période où, c'est difficile à expliquer, où je ne pouvais pas encore vivre ma vie, mais vivre sa vie, ça veut rien.
C'était parce que j'étais un enfant.
Oui, j'étais un enfant et même
indépendant.
J'étais pas indépendant et on m'imposait. Alors, c'était à la fois autobiographique, mais c'était un peu comme un recueil de poèmes d'un poète qui avait écrit un recueil de poèmes qui s'appelait Ma vie sans moi. C'est-à-dire que c'était presque, c'était une période où je n'étais pas on m'imposait des choses. Alors pour moi, c'était pas tout à fait c'était une autobiographie. Je racontais, mais c'était imposé du dehors. Alors ça me facilitait le travail, parce que ça aurait été très difficile pour moi d'écrire une vraie autobiographie. Enfin.
Mais là, on voit que dans La Danseuse, mais aussi dans d'autres de vos romans où vous flânez la nuit dans le Paris des années 60, je pense à Dans le café de la jeunesse perdue, 2007, dans L'horizon, en 2010, mais aussi dans Chevreuse, en 2021. Ce sont des livres où vous explorez... non pas le petit garçon, mais l'adolescent livré à lui-même après, quand il justement n'est plus dépendant de ses parents.
Oui,
et
oui.
Ça, cette zone, cette exploration-là, on dirait que elle ne se terminera jamais.
Oui, c'est-à-dire c'est une exploration qui bascule dans l'imaginaire aussi, qui est un d'ordre romanesque, oui, parce que ce serait compliqué si je devais écrire évidemment une autobiographie très j'ai toujours une difficulté. Alors évidemment, il y a des lambeaux qui ressemblent à des épisodes que j'ai côtoyés comme ça, mais revus à travers une sorte de rêverie romanesque, en fait.
Oui. Non, mais ça m'amène à une question très simple, en fait. Oui. Est-ce que vous préférez l'image floue ou l'image nette? Parce que vous avez fait les deux.
Oui.
Vous préférez, je ne sais pas moi, La Danseuse ou un pédigré?
C'est-à-dire, je préfère quand même l'image nette. Enfin, c'est difficile à expliquer. C'est-à-dire que, quelquefois, oui, c'est un peu ambigu, parce que quelquefois, dans mes romans, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est très net, mais peut-être que il y a des choses un peu... Moi, je préfère l'image nette. Si vous voulez, je préfère l'image nette quand elle est un peu comme, je ne sais pas, avec certains tableaux surréalistes. Par exemple, des tableaux de Magritte où il y a une maison qui est très nette, mais en même temps, on sent qu'il y a une question d'éclairage qui fait mais tout est très net, en fait.
Oui, c'est bien, c'est bien. En fait, vous ne voulez pas choisir votre camp, et puis vous avez raison, puisque vous avez inventé ce genre-là.
Non, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le... Oh, c'est idiot, on ne peut pas non plus se juger, il faudrait du recul, mais les phrases sont nettes, en fait.
Oui, c'est vrai.
Mais alors, il faudrait que ça corresponde, évidemment.
Mais non.
Mais si, parce que moi, j'aime bien les choses nettes,
je comprends. Mais c'est vrai que vous êtes le roi pour être à la fois très précis et en même temps très très égaré.
Oui.
C'est ça qui fait la merveille, la féerie de votre genre de beauté, c'est vrai. Alors, troisième surprise musicale, toujours tirée de votre livre. Hein. Nous avons entendu, il y avait un hommage à Balanchine, puis après c'était Roland Petit. Et là, c'est un ballet chorégraphié par Rudolf Nureyev, qui a été créé en 92 à l'Opéra de Paris, La Bayadère, sur une musique de Léon Minkus. Nous recevons toujours Patrick Modiano chez La Pérouse pour son nouveau roman La Danseuse, publié aux éditions Gallimard. Alors, cher monsieur Modiano, dans cette émission, il y a un jeu qui est célèbre dans tout le 6e arrondissement, qui s'intitule « Devine tes citations ». Je vais vous lire des phrases tirées de votre œuvre et vous devez me dire dans lequel de vos livres vous avez écrit ceci. À plusieurs reprises, on l'avait traité de somnambule et le mot lui avait semblé, dans une certaine mesure, un compliment.
C'est terrible, hein, parce que je vous ai... Enfin...
Peut-être vous auriez pu écrire ça dans presque tous vos livres, mais...
Non, mais...
Il faut choisir.
Alors... Oh là là... Attendez, c'est peut-être dans celui qui a... attendez... Celui qui a précédé... Mais je...
Chevreuse. Oui, c'est l'avant.
Ben oui, mais
l'avant
ça, c'est au...
Bravo. Chevreuse 2021. Donc, vous avez été inspiré par ce ballet, la somnambule, pour écrire la danseuse. Ce mot somnambule signifie que vous aimez dormir en marchant. C'est un peu dangereux, tout de même.
Oui, c'est-à-dire que... en même temps, je me demande si quand on marche, enfin quand on est somnambule, on n'a pas une sorte de pression, enfin que on ne va jamais vraiment au bord du, il y a une sorte de lucidité qui reste, une extra lucidité qui fait que on peut pas basculer dans le vide.
Nous l'espérons pour vous. j'ai lu sur Wikipédia, il est dit que vous avez été hétéromane. En 1960, alors, il y a souvent écrit des bêtises sur Wikipédia.
Non, mais c'est-à-dire que...
Hétéromane signifiant que vous consommiez de l'éther.
Oui, non, mais il y avait une chose... Enfin, ça date de j'allais dire non. C'est une chose qui m'est venue enfant. C'est-à-dire que j'ai été renversé par une camionnette quand j'étais à Biarritz en sortant d'une école... Et on m'a...
Vous étiez somnambule déjà à l'époque, peut-être ?
Oui, j'étais somnambule. Oui, c'était une sorte... J'ai traversé comme un somnambule et j'ai été renversé heureusement. Et on m'a transporté dans chez des bonnes sœurs qui étaient juste à côté de l'école. Et elles m'ont appliqué un... Alors maintenant, ça n'existe plus, une sorte de masque où il y avait de l'éther. Et à partir de là, c'est quelque chose qui m'a hanté tout le temps, et d'autant plus que les flacons d'éther, mais je sais pas si on les vend plus en pharmacie, mais c'était des flacons d'éther bleu foncé,
oui,
qui étaient faits par c'était une famille dont le fils a créé les éditions de l'Arbalète, enfin.
Ah oui.
Et alors donc ces espèces de flacons bleus. Je peux pas vous dire un espèce de bleu.
Bleu foncé. Ouais.
Bleu foncé. Et alors, c'est vrai que de temps en temps, je pouvais pas m'empêcher de rester.
c'est un scoop, on apprend que.
Et alors, l'éther
consommait de l'éther.
Non, mais c'est-à-dire que il y avait un truc très bizarre dans l'éther, c'est que quand on aspirait, c'était à la fois un sentiment de légèreté, mais en même temps, il y avait quelque chose de pesant. Enfin.
Oui, puis ça endort, en fait.
Ça endort, mais en même temps, il y a une sorte de... Mais oui, voilà, c'est ça.
C'est la famille, c'est Giffrère. Voilà, non, c'est ça. C'est la marque, en tout cas, la marque d'éther, Giffrère.
Oui, c'est Giffrère, mais eux, c'était... il avait un autre nom, c'était un truc qui était... Et donc, c'est quelque chose qui m'a... oui, alors, je pouvais pas de temps en temps... mais bon, enfin, j'ai...
Je conseille aux auditeurs et aux auditrices de ne pas faire ça. Ce n'est pas parce que vous respirez de l'éther que vous allez écrire comme Patrick Modiano.
Bah, précise. C'était peut-être une chose qui correspond. Enfin, je sais pas. Enfin,
j'ai noté aussi, à propos de drogue, pardon, que votre premier texte publié a été publié dans le spécial LSD du Crapouillot en 1966. Donc, il y avait également Mauriac, Janco, Dominique Deroux dans ce numéro du Crapouillot. Mais enfin, vous fréquentiez quand même des milieux psychédéliques en 1966.
C'est des gens de ma génération, oui, qui faisaient des expériences sur le LSD, oui, avec le docteur Timothy Leary.
Oui, tout à fait. Oh, mais peut-être que c'est là qu'il y a le secret de votre flou artistique.
Oui.
Alors, je continue le jeu, devine tes citations, oui. Revenons aux choses sérieuses. Donc, je vous lis une phrase, vous devez me dire où vous avez écrit cela. Curieuse activité solitaire que celle d'écrire. C'est un peu comme d'être au volant d'une voiture la nuit, en hiver, et rouler sur le verglas, sans aucune visibilité. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous devez continuer d'avancer en vous disant que la route finira bien par être plus stable et que le brouillard se dissipera.
Oui, alors c'est un. Alors je vois tout de suite parce que c'était pas dans un roman parce que j'aurais pas pu expliquer. Oui, ça devait être dans un discours.
Bah oui.
Oui, parce que
un fameux discours, le discours de réception du prix Nobel de littérature.
Oui, parce que c'est quand même très explicite. Alors, j'aurais pas pu l'écrire dans un. Oui, voilà. C'est dans un discours.
C'est à Stockholm en 2014, quand vous avez reçu le Nobel. Quelle impression vous reste de ce séjour en Suède en décembre 2014?
Bah, c'est une impression. Oui, c'était. C'est très curieux cette vie. Enfin, parce que c'était un peu un univers de. Comme. Comme une sorte de conte nordique avec le roi. Enfin, oui.
Dans une grande salle, avec la famille royale, avec l'Académie suédoise.
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait un moment très étrange où on attendait, parce qu'il y avait une pendule qui avait été offerte par le roi Louis XV, en fait. Et c'est-à-dire, avant de dire le discours, il fallait attendre dans une sorte d'antichambre et. La pendule sonnait 5 heures. Et en fait, cette pendule ne marchait uniquement que le jour du. Oui, il y avait une atmosphère étrange.
Ah, c'est marrant. Alors, une autre phrase.
Oui.
Quelquefois, je voudrais revenir en arrière et revivre toutes ces années mieux que je ne les ai vécues. Mais comment?
Ah oui, ça devait être dans un pédigré. Oui, pédigré, c'est plus direct. 2005. Oui,
oui. Oui. C'est vrai, ça? Vous aimeriez revivre votre enfance autrement?
Ben oui, revivre certaines périodes, oui, mon enfant, certaines périodes de ma vie où j'ai l'impression que j'étais pas en mesure de les vivre bien. Alors, mais on peut pas.
Non, on ne peut pas recommencer, mais pense que là, ce passage-là fait allusion à votre brouille avec votre père.
Oui, c'est ça.
Vous êtes échangé des lettres très dures,
et après,
vous n'êtes plus jamais revu.
Non, oui, c'est-à-dire qu'on regrette que souvent, rétrospectivement, on se demande comment des choses comme ça ont pu exister, qui auraient été si faciles de les vivre. Oui, souvent. Comme si la vie, justement, n'avait pas été corrigée par quelques ratures. Enfin, que ça aurait pu. Ah oui, j'ai souvent eu cette impression.
Alors, vous parlez beaucoup de musique aussi, notamment dans la. Alors là, je vais pas la lire en entier, c'est une longue citation, mais vous dites au fond qu'un. Vous auriez aimé être musicien. C'est dans la préface au quarto de vos romans, en mai 2013, vous dites. Que quelque part vous êtes comme quelqu'un qui a une comment dire les mêmes fragments mélodiques d'un livre à l'autre, mais une partition musicale qui lui semblera imparfaite. Il y aura chez le romancier le regret de n'avoir pas été un pur musicien et de n'avoir pas composé les nocturnes de Chopin. Mais bon, premièrement, vous avez composé les nocturnes de Modiano, donc c'est pas si mal. Mais surtout, est-ce que vous regrettez vraiment de ne pas avoir été musicien, puisque nous sommes sur Radio Classique?
Oui. C'est-à-dire que, oui, je regrette de pas. Oui, évidemment, les romanciers, en fait, c'est moins fluide que la musique. Et même les romans un peu étranges parce qu'évidemment, c'est pas des romans de type naturaliste ou c'est des romans un peu oniriques comme ça, mais même, ça n'arrive pas à avoir la fluidité de la musique, en fait.
Bon, je ne suis pas d'accord du tout avec vous, mais je voudrais vous raconter. Enfin, non. D'abord, je voudrais vous faire entendre une surprise, et vous allez devoir me dire qu'est-ce que c'est.
Et des larmes de rasoir, étonnez-moi. Étonnez-moi, Benoît, faites la grand roue. le grand fou. Faites les yeux doux et tenez-moi.
Donc ça, c'est une surprise. C'est une chanson dont vous avez écrit les paroles, Étonnez-moi Benoît, de Françoise Hardy, sur une musique d'Hugues de Courson, en 1968. Je précise que vous avez aussi écrit une chanson pour Régine, et que votre fille Marie a sorti 6 albums. Donc dans la famille, en fait, il y a une musicienne.
Oui, enfin, elle est plus musicienne que plus que moi. Enfin, oui, puis elle a écrit de belles choses. Enfin.
Et alors, écoutons ce que dit Françoise Hardy. On a trouvé une archive assez amusante qui vous concerne.
Le cliché que j'ai, c'est oui. Patrick en train de héler un taxi où il était là comme ça.
Oui, non,
parce
mais...
qu'il était comme une danseuse
oui,
avec une jambe
oui, oui.
et le bras.
Un peu Jacques Tati, oui.
Et donc elle dit, Françoise Hardy dit de vous que quand vous hélez un taxi, on dirait une danseuse.
Oui, voilà, j'ai donc reconnu son rire, oui. Mais c'est pour ça que c'était facile pour moi de mettre dans
la peau d'une danseuse, puisque vous êtes, oui. vous avez la silhouette d'un danseur.
D'une danseuse, enfin, sans la grâce.
Sans la grâce.
C'est plutôt, oui, comme du Jacques Tati. Enfin, lui, il avait une certaine grâce aussi.
Enfin, en tout cas, merci infiniment, Patrick Modiano, d'être venu converser avec moi chez La Pérouse pendant une heure. C'était un véritable plaisir et merci pour toute l'œuvre que vous avez publiée depuis 1968 et qui nous enchante toujours autant. Et j'engage tous les auditeurs et les auditrices à acheter, lire La Danseuse, parce que c'est vraiment comme si vous aviez distillé dans un flacon, un concentré de votre alcool. Et merci.
Merci à vous qu'on ait pu un peu discuter tous les deux.
Merci beaucoup. Merci également à toute l'équipe, Philippe Gaud, Diane Chambriard et Jérémy Bigori. Dans un instant sur Radio Classique, vous avez rendez-vous avec Laure Maison pour le concert du samedi soir. À l'affiche, l'Insula Orchestra, dirigé par Laurence Equilbet, pour une soirée spéciale consacré à Ludwig van Beethoven. Bonsoir à tous et à samedi prochain.
Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé en partenariat avec Le Figaro Magazine. Également disponible en podcast.